Voilà, on est à Managua. Il fait très 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 chaud aujourd'hui, c'est dimanche. Et j'ai rencontré dans mon voyage Olga Baires, qui est la responsable internationale de la MES, de l'association des femmes du Salvador. Olga Baires, qu'on a déjà interviewée une fois l'année dernière pour la radio des femmes de Genève, pour la radio Pleine Lune, et que j'ai eu la chance de rencontrer ici. Elle était de passage à Managua. Alors tout d'abord, on va peut-être reparler un petit peu de la MES. La MES qui vient de sortir son bulletin international à l'occasion du 8 mars, un numéro spécial de son bulletin international. Et il y a une chose qui me frappe quand je vois ce bulletin, c'est le slogan qui est écrit sur la première page. C'est écrit « En conquérant les droits de la femme et de l'enfance, construisons la nouvelle société ». Avant, le slogan de la MES mentionnait la famille, non ? C'était « En conquérant les droits de la femme et de la famille, construisons la nouvelle société ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez un peu changé cette phrase ?
Bon, c'est-à-dire que nous pensons que la consigne doit exprimer la réalité concrète de la femme salvadorienne. Alors, c'était une, disons, constatation et aussi ça montre un peu, disons, les avances même de AMES. C'est-à-dire que quand l'association est née en 1979, et elle est née avec les objectifs déclaratifs et tout ça, avec cette consigne. Mais, disons, c'est un peu aussi l'expérience et la praxis qui nous a montré que cette consigne n'était pas d'accord, disons, avec la réalité de la femme salvadorienne. Et aussi la réflexion faite que c'est le mouvement révolutionnaire dans son ensemble qui revendique les droits de la famille, c'est-à-dire la famille toujours comme pilier de la société, et soit de la société de maintenant, soit de la société après. Et le mouvement révolutionnaire s'appuie dans ce pilier. Bien sûr, on pense toujours à une nouvelle famille. Et quand on est rentré en analysant aussi les objectifs du mouvement révolutionnaire, et quand on a questionné et on a analysé les contenus, disons, des objectifs, on s'est rendu compte vraiment que ce n'est pas vrai qu'en conquérant les droits de la femme et la famille, on est en train de conquérir les droits de la femme. C'est-à-dire qu'on nous répond toujours, les dirigeants, que ce n'est pas nécessaire de spécifier que si on est en train de conquérir les droits pour la famille, et inhérent les droits de la femme. Bon, comme l'expérience nous a montré à travers les autres mouvements de libération nationale que la question de la femme s'est pas résolue, disons, du moment de la prise du pouvoir, et quelquefois n'est pas résolue 20 ans pendant, alors on a commencé à réfléchir sur cette situation, c'est-à-dire qu'on devait faire sortir, disons, de cet ensemble qu'on appelle famille, les éléments les plus simples de cette complexité, si on peut dire en français comme ça. Alors, on fait sortir les éléments les plus touchés, les plus opprimés, les plus exploités, et ceux qui ont besoin d'une revendication plus spécifique. Alors, c'est pour ça qu'en analysant chaque élément constituant la famille, on est arrivé à la conclusion, vraiment, qu'on devait faire plus spécifique les droits de la famille, les droits, pardon, de la femme. Bon, et pourquoi aussi les droits de l'enfant? Dans le cas du pays de l'Amérique centrale et peut-être de l'Amérique latine, je n'ose pas aller plus loin, mais disons, pour concrétiser la situation centro-américaine, qu'est-ce que c'est la famille, enfin? C'est-à-dire par pour quel élément constitue la famille. Bon, dans la classe populaire, on voit que la famille est composée par la femme et ses enfants. On voit par exemple les 80% des femmes mères célibataires, c'est-à-dire des femmes qui n'ont jamais constitué une famille dans la conception traditionnelle des familles, c'est-à-dire l'homme, la femme et les enfants. Dans les couches populaires, on voit vraiment que la femme a un rôle très important comme chef de famille, comme administratrice, comme la personne, disons, qui contrôle toute la situation. Bon, et au fur et à mesure que le même système, disons, structurel au Salvador se dégrade, cette situation se dégrade aussi. Alors, qui a une famille dans ce moment au Salvador? On peut dire que la famille existe constituée de façon traditionnelle ou de façon, bon, la conception de toujours, dans la classe moyenne, dans la petite bourgeoisie ou dans la haute bourgeoisie. Mais on ne peut pas parler de ça pour les couches populaires. Bon, ça c'était une constatation et c'est pour ça qu'on est arrivé à prendre les éléments, disons, les plus simples constituants de la famille et en les considérant les éléments les plus exploités, les plus exprimés dans la société, c'est-à-dire dans son ensemble. C'est la femme et c'est l'enfant les plus exploités, même que l'homme, c'est-à-dire de la classe travailleuse, aussi est exploité par les systèmes capitalistes, mais encore il y a une autre exploitation familiale, on peut dire comme ça, n'est-ce pas? À l'intérieur du noyau familial, si existe, c'est-à-dire l'exploitation et la oppression, la subjugation de la femme et de l'enfant. Bon, et si la famille n'existe dans la classe populaire, alors c'est la femme toute seule et ses enfants qui revendiquent leurs droits. Alors, quand on a commencé à faire des interviews, des enquêtes et des visites, par exemple, dans les bidonvilles les plus démunis de la capitale, on a constaté que la femme jamais faisait allusion à l'homme, parce que l'homme n'existe pas dans les foyers. Alors il parlait toujours de sa propre situation et de la situation de ses enfants, c'est-à-dire elle affrontait à la société, elle affrontait à tous les systèmes toute seule avec ses enfants. Alors elle revendiquait toujours, sa revendication était la revendication de ses enfants. Bon, c'est pour ça qu'on a dit, bon, pour être plus près de la réalité salvadorienne, pour représenter vraiment dans notre association les secteurs que nous voulons représenter, c'est-à-dire représenter les secteurs populaires, on doit et on a dû, n'est-ce pas, faire de la consigne la démonstration de la réalité salvadorienne. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à partir de cette année, disons, à utiliser cette nouvelle consigne en conquérant les droits de la femme et l'enfant. Nous construisons la nouvelle société. Mais nous pensons que cette situation est conjoncturelle, parce que nous pensons que l'affaire des enfants, c'est l'affaire d'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit, ou la société plutôt, si on veut parler d'une façon plus réelle, et plus concrète, parler de l'État, c'est un peu à l'être loi. Et disons plutôt de la société dans son ensemble, les enfants, c'est l'affaire de la société. C'est-à-dire, doit être l'affaire d'hommes aussi, l'affaire de femmes, l'affaire de la communauté, l'affaire de tout le monde. Alors, mais pendant qu'on arrive à cette situation, on est en train d'amener à côté de notre lutte aussi, disons, amener avec nous la situation des enfants. Par exemple, on n'a pas l'occasion que Suzanne soit pour la commémoration du 8 mars, mais c'est très intéressant de voir les assemblées d'AMES. Pour chaque femme, il y a 5, 6, 7 enfants. Alors, quelquefois, on peut dire, bon, ce n'est pas la fête des femmes, c'est la fête d'enfants, par la quantité incroyable d'enfants qui viennent et que les femmes ne peuvent pas laisser de côté. C'est-à-dire que dans les cas concrets, par exemple ici de Nicaragua, que ce sont les femmes réfugiées, ce sont des femmes dans la majorité, disons, des femmes toutes seules avec les enfants. Bon, et si c'est au San Salvador, c'est pareil. C'est-à-dire, si on commémore le 8 mars, on va voir que les secteurs populaires, que ce sont les majoritaires, vont venir avec ces enfants. L'homme peut manquer. Et manque. Il n'existe pas. Mais l'enfant, il est là. C'est une réalité concrète. C'est-à-dire, c'est la réalité du Salvador ou la réalité de l'Amérique centrale, c'est de trouver un énorme pourcentage de mères célibataires qui ont fait des enfants et que l'homme n'a pas, disons, un rôle important dans cette affaire parce que l'homme est parti. Bon, il a fait l'enfant, mais il est parti. Alors, quelquefois même, il ne sait pas qu'il a un enfant de cette femme.
Parce qu'ici, au Nicaragua, il y a une loi qui a été importante pour le Nicaragua, qui s'appelle la loi des pensions alimentaires.
Oui.
Et je pense que ce serait bien qu'on parle un tout petit peu, peut-être, de cette revendication qui était lancée par l'Association des femmes du Nicaragua, en fait, pour que les hommes prennent leurs responsabilités, pour que les hommes, pas s'occupent des enfants, mais payent des pensions, en tout cas tous ceux qui le peuvent. C'est un type de loi qui existe, du reste, en Europe, dans beaucoup de pays, non, où il y a toutes sortes d'institutions qui permettent de prélever directement, par exemple, sur le salaire de l'homme qui ne veut pas payer une pension, de prélever directement sur son salaire une pension qu'on va donner à la femme, etc. C'est un type de loi qui existe en Suisse et qui vient de passer ici au Nicaragua, qui a permis de faire tout un débat sur le machisme et sur la famille et sur l'irresponsabilité des hommes.
Oui, je crois que la loi de la pension alimentaire, c'était intéressant, disons, du moment où a provoqué vraiment une catastrophe. C'est-à-dire catastrophe pour les hommes, parce que la réaction a été très violente de la part des hommes et a fait sortir vraiment en évidence la question du machisme. Et bon, nous pensons que chaque pays propose des solutions qui sont d'accord à son propre développement historique, et soit par l'action précédente d'avant par les organisations de masse, soit par l'action qui existe dans le moment. C'est-à-dire, je crois que toutes les propositions faites sont d'accord au développement, disons, et à la situation qui vit chaque pays. Bon, comment est-ce que nous, l'Association des femmes du Salvador, nous voyons cette question? C'est-à-dire comment y arriver prendre la responsabilité de la paternité aux hommes salvadoriennes. Et peut-être qui, par la même situation d'affrontement de la vie qui a la femme salvadorienne, et qui a su toujours travailler de sa propre compte pour sortir de la situation avec ses enfants, je crois que peut-être que notre questionnement va être un peu différent. C'est-à-dire que nous avons toujours pensé, et je l'ai dit au départ, que pour nous la question d'enfants, c'est une question de la société dans son ensemble, c'est-à-dire de l'État, de la société, de l'État, bon, et nous le pensons toujours. C'est-à-dire que pour les femmes salvadoriennes, ça serait plutôt une loi qui puisse l'appuyer directement à elle en tant que femme pour qu'elle puisse en sortir avec ses enfants, toute seule. Et bon, la situation au Nicaragua, peut-être, ça donne dans une situation différente pour les femmes nicaraguayennes.
Le problème, c'est que pour soutenir financièrement toutes les mères célibataires, il faut disposer de fonds immenses. L'État dispose de...
C'est l'État même qui doit penser à ça. C'est-à-dire que l'État peut faire payer aux hommes, par exemple, célibataires, ou je ne sais pas, qui, un pourcentage de son salaire pour les affaires sociales, par exemple.
Alors, ce serait compris comme les routes et comme ça.
Ah oui.
Dans les impôts, le fait que...
Voilà. Par exemple, c'est-à-dire que c'est de penser, de créer des formules possibles. Bon. C'est difficile, je ne peux pas parler au nom des femmes nicaraguayennes. Malheureusement, on n'a pas eu encore l'occasion de faire un débat sur cette expérience. Comment est-ce qu'elles l'ont vécu? Comment est-ce qu'elles le vivent? N'est-ce pas? Mais j'ai entendu dire qu'il y a des femmes, n'importe quelle femme, disons, peut être organisée ou peut pas être dans la haie, ou peut... Bon, une femme qui dit, moi, je n'utiliserai pas la loi parce que je ne veux pas que le père de mes enfants se mêle dans ma vie. Parce que du moment où il va commencer à passer une pension, il va croire qu'il a les droits sur moi, qu'il a les droits sur les enfants, et ça va être pire que dans la situation actuelle. Bon, mais ça, vraiment pour dire... ou pour faire sortir, disons, déjà un résultat, il faut discuter avec les femmes nicaraguayennes. Nous, de notre côté, qu'est-ce que AME pense? Bon, on a pensé toujours comme ça, que les enfants, c'est l'affaire de la société. Quelle est la formule que la société ou l'État va trouver pour résoudre ce problème? Ça, c'est son affaire. Mais peut-être que nous ne poserons pas une loi de l'alimentation. Nous proposerons plutôt l'aide directe de l'État pour les femmes salvadoriennes.
Donc, je pense que ça pose le problème de savoir si la famille, la petite famille avec le père, la mère et les enfants, c'est une institution qui va vraiment dans l'intérêt des femmes, dans l'intérêt de l'autonomie des femmes. Est-ce que ça peut être la revendication de la création de la famille là où elle n'existe pas, c'est vraiment une revendication qui va dans l'intérêt spécifique des femmes?
Bon, je vais te raconter l'histoire ou l'expérience plutôt de AMES. AMES est constituée dans la majorité des couches populaires, c'est-à-dire des femmes qui viennent de la campagne, des ouvrières, des habitantes des bidonvilles. Bon, la majorité vraiment militante et la femme pauvre. Mais aussi nous avons des militantes de la petite bourgeoisie, des intellectuels, des universitaires. Au moment de la discussion du changement des consignes, ceux qui s'opposaient à changer la consigne, ce sont les militantes de la petite bourgeoisie. C'est-à-dire... Les copines qui ont une famille structurée avec l'homme, c'est-à-dire l'homme qui les permet à elles d'avoir une vie militante, dégagée de toutes les responsabilités que ça veut dire travailler pour nourrir ses enfants. C'est-à-dire que nous pouvons compter avec des femmes militantes d'AMES qui ont son problème de subsistance résolu par leur mari. Alors, eux, cette copine s'opposait à que nous changeons. Pourquoi? Parce que ils sont, disons, même qu'ils sont d'accord avec le processus révolutionnaire, même qu'ils sont très conscients des besoins de changer les structures et tout ça, leur mentalité continue encore très traditionnelle. C'est-à-dire, pour cette copine, maintenir la famille, c'est très important. Bon, et quand on a parlé de s'approcher plutôt à la réalité salvadorienne, de la femme qui n'a pas la famille constituée comme cette minorité, ce sont des copines avec lesquelles on a dû vraiment discuter beaucoup Et à la fin, on est sorti gagnant parce que c'est la majorité qui a dit, pour nous, ce sont les enfants les plus importants, pas les maris, parce que les maris n'existent pas dans nos foyers. Bon, alors, si tu veux, la question de la famille, on est arrivé à la conclusion, après cette expérience, que Amé ne pouvait pas revendiquer cette question, qu'on la laissait plutôt, disons, à l'option individuelle de chaque femme. C'est-à-dire, la femme qui a sa famille constituée a le droit de la maintenir, et la femme qui veut faire un enfant et pas constituer une famille, c'est son affaire aussi. Mais la femme qui veut faire un enfant sans constituer une famille peut le faire seulement s'il y a le soutien et l'aide de l'État. Si elle, en tant que femme, n'est pas toute seule dans la société. Bon, la question de la famille, c'est à l'intérieur de AMES, un thème bouleversant. Qui défend la famille et qui la question de la famille n'est pas un problème. Bon, alors, cette expérience peut nous démontrer, disons, la variété d'opinions qui existent à AMES même. Qui veut maintenir la famille et qui, disons, ne les donne pas d'importance. Mm-hmm. Ne les donne pas d'importance à la grande majorité. Bon, ça ne veut dire pas que nous promouvons la destruction de la famille ou que nous promouvons à l'intérieur d'un mes arriver à constituer la famille. La question de la consigne, c'est plutôt une question dans ce moment conjoncturel. C'est-à-dire, pendant qu'on ne fait pas la révolution, pendant qu'on ne change pas, disons, la structure économique, sociale, culturelle telle qu'elle existe maintenant, revendiquer les droits des enfants, c'est une question imposée par la réalité même salvadorienne. C'est-à-dire que la femme et l'enfant, ce sont les deux êtres de la société salvadorienne les plus opprimés de tout l'ensemble de la société. Bon, mais en montant par catégorie sociale, disons, cette situation change par rapport au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Et à l'intérieur d'AMES, il y a tous les secteurs de la société salvadorienne représentés. Bon, c'est comme ça, disons, que on voit la question de la famille, on ne peut pas se prononcer. Le fait d'avoir éliminé la consigne, ce n'est pas parce qu'on est en train d'abolir la famille ou de faire des campagnes pour que la famille n'existe pas. Non, la question de l'ancienne consigne, c'est plutôt nous approcher avec une nouvelle consigne à la réalité concrète. Bon, et la revendication de la famille dans son ensemble, c'est l'affaire d'un mouvement révolutionnaire dans son ensemble, qui a besoin de ces piliers de la famille. On verra si va être une famille de nouveau type. Ça, nous ne pouvons pas même nous avancer à dire qu'est-ce qui ça va se passer. Mm-hmm. Parce que c'est la praxis même qui nous montre les chemins à suivre. Bon, c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est-à-dire, de toute façon, à l'intérieur de la maison, on a vu des changements énormes entre les objectifs déclaratifs et les avances dans la praxis même.
Tu peux nous raconter un peu justement qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur du Salvador? Quelle est la pratique de la messe dans les zones contrôlées par le mouvement de libération et puis également peut-être dans à San Salvador et dans les autres parties du pays?
Bon, écoute, par la situation de guerre, disons, on s'imposait. Bon, je te dis imposé parce que c'était des situations imprévues dans notre plan de travail quand on est né, mais qui en même temps nous a fait avancer beaucoup. C'est-à-dire, on peut dire qu'on a souffert une espèce de mutation positive, c'est-à-dire l'apparition d'un nouveau élément, n'est-ce pas, et qui fait avancer la pensée, qui fait avancer et les réflexions, qui fait avancer la praxis même des AMES. Et nous avons, disons, trois niveaux de travail maintenant. imposée par la situation de guerre. Et le travail du son dans les villes, que c'est le travail le plus difficile à faire, et où la situation de répression ne permet pas, par exemple, de faire un travail idéologique assez important. C'est-à-dire, nous pensons que le travail d'AMES en ville va être en retard par rapport au travail fait dans les zones libérées. C'est-à-dire que dans les villes, la répression est tellement grande qu'on s'occupe plutôt de la répression. Et on voit s'agrandir l'association justement à travers cet élément. C'est-à-dire, de plus en plus, les femmes des villes se rendent compte qu'elles ne peuvent pas rester isolées, insensibles à tout ce qui se passe avec le peuple salvadorien. Et c'est plutôt, disons, la répression qui les fait sortir de son ghetto familial pour chercher la façon d'aider n'importe dans quel niveau. C'est-à-dire, c'est une impulsion plutôt de type de conscience plutôt humaniste que de conscience politique. Bon, alors le développement se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire, beaucoup de femmes, et vous allez recevoir à Genève le bulletin numéro 2 de l'année numéro 2, où il y a l'interview d'une femme de 46 ans qui jamais avait milité avant, par peur. Elle avait peur, mais un peur horrible, mais de militer. Mais en même temps, elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas laisser passer de côté tout ce qui se passe. Alors, en existant à Metz, elle trouve un canal de militance, ça, à San Salvador même. Bon, cette interview est très intéressante et peut-être la radio pourra les faire passer. Qu'est-ce que signifie pour une femme dans la répression même des 46 ans de la petite bourgeoisie, militer et découvrir un nouveau monde pour elle. Bon, c'est comme ça que se passe dans les villes. On ne peut pas faire un travail politique assez important, mais quand même, on ne laisse pas non plus de côté la sensibilisation sur la problématique de la femme, sur la problématique spécifique de la femme. Mais on ne peut pas faire un travail idéologique.
Mm-hmm. Bon,
dans les zones libérées, c'est tout à fait différent. Bon, et c'est là où on vraiment voit l'apparition des possibilités de concrétion, de cristallisation, des demandes spécifiques des femmes.
Mm-hmm. Tu peux donner des exemples?
Oui, je vais donner un exemple très intéressant. Par exemple, il y a un an qui a mis ça ouvert son travail dans les zones libérées et on a trouvé un cas très intéressant. On frappe à la porte d'une femme, mère de 4 enfants. Alors, on se rend compte que c'est une femme qui est tout à fait politisée, qui connaît très bien toute la situation, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas croire que toutes les femmes qui ont dans les zones libérées, ce sont des femmes politisées. Quelquefois, ce sont des femmes que la guerre les a trouvées là, mais qui n'avaient jamais participé. Alors, ce sont des femmes qui s'en foutaient avec tout ça parce qu'ils ne comprenaient rien du tout. Quelquefois, ils ne comprenaient pas même la question de la situation de guerre. Bon, mais cette femme que je vais raconter, c'était une femme très politisée. C'était la copine d'un représentant d'une organisation de masse dans la zone. Et je parle du front paracentral du FMLN, WhatsApp. Alors, elle dit, moi, je veux participer, mais mon mari ne me laisse pas participer parce qu'elle m'a défini mon rôle. Bon, il a dit que pour pouvoir lui faire tout son travail politique, moi je dois rester à la maison, gardant les 4 enfants et faisant tout le travail domestique. De cette façon, il se libère pour pouvoir donner tout ce qu'il est capable de donner à la révolution. Mais moi je veux participer. Elle avait discuté beaucoup avec son mari sur cette question et le mari n'avait jamais, jamais accepté. Alors, quand elle frappe la porte, on rencontre cette situation. Bon, la première chose qu'elle a fait, c'est une petite assemblée avec les femmes de l'amour voisin, voir quelle est la sortie qu'on peut donner à cette situation. Bon. La première impulsion, c'était, bon, comme elle a 4 enfants, alors, on va faire, c'est comme ça qu'est née la garde collective d'enfants. C'est-à-dire la garde, mais non toutes les femmes, par, une fois par semaine, font la, comment dire,
la garderie.
La garderie, ou ça dépend, si c'est beaucoup de femmes, alors c'est encore plus loin, la garderie, une fois par mois, quelque chose comme ça. Alors les femmes de l'amour ont décidé de faire la garderie d'enfants collectifs pour qu'elles puissent se libérer de ça. Alors on a proposé à son mari, elle a proposé à son mari que, bon, qu'elle pourrait participer parce que ses enfants vont être gardés par les femmes. Alors son mari l'a dit que non, que son rôle, que sa place et que tout ça était à la maison. Bon, alors on a dit ça, c'est pas possible. Si elle veut participer, c'est son droit à participer. Alors, on est passé de la petite assemblée des femmes qui appuyaient à cette copine à une assemblée majeure où participaient les pouvoirs populaires. Bon, en face du pouvoir populaire, les camarades révolutionnaires, un très bon dirigeant, un responsable, tout ça, a dû et accepter avec difficulté la décision du pouvoir populaire. C'est-à-dire que le pouvoir populaire appuyait la revendication de la femme à participer, à s'intégrer à AMS et à avoir des tâches dans la révolution. Bon, son mari, il s'est défendu d'une façon incroyable. Il cherchait des arguments pour dire que ce n'était pas possible parce que sinon lui, il allait se sacrifier et qu'il ne pourrait pas répondre à ses affaires comme il répondait parce que maintenant il faut s'occuper des enfants, il faut ceci, il faut cela. De toute façon, le pouvoir populaire a voté à faveur de la femme pour son incorporation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que AMS a gagné au niveau du pouvoir populaire une place. Nous avons des femmes d'AMS dans presque tout le pouvoir populaire. Bon, ça veut dire...
Le pouvoir populaire, c'est les organisations de masse, c'est l'ensemble des organisations de masse.
Le pouvoir populaire, ce n'est pas l'ensemble des organisations de masse. Le pouvoir populaire, on peut dire, c'est les germes du gouvernement démocratique révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui va gouverner une petite ville. C'est l'équipe qui va s'occuper de résoudre les problèmes de la vie quotidienne, la vie civique, la vie culturelle, la production, la défense
du village. Dans les zones libérées.
Dans les zones libérées. Alors, on peut dire que le pouvoir populaire, c'est les germes du gouvernement.
Du futur gouvernement.
Du futur gouvernement. Ouais. Nous disons que c'est l'autogouvernement. C'est le peuple en petit qui gouverne ses amants, qui gouverne les communautés, qui gouverne les villes. Bon, alors c'est le pouvoir, le vrai pouvoir populaire. C'est l'expression, disons, de l'exécution des lois du peuple. Bon, et AMS. C'est-à-dire une place. C'est-à-dire à gagner une place. Nous avons des camarades au niveau du pouvoir populaire. Elle ne représente pas à des organisations. Elle est là en tant que femme qui a gagné la confiance de la communauté et que la communauté l'a élue pour la représenter au gouvernement. Bon, au gouvernement, bien sûr, dans la nouvelle société, mais que dans les fronts, c'est les germes de cette nouvelle société, de cette nouvelle gestion. Bon, c'est comme ça qu'on a gagné la bataille de cette copine. Et bien sûr, les camarades, ils n'étaient pas contents. Et à ce niveau-là, on a eu des problèmes, par exemple, dans les couples. Et AMS a dû dialoguer, on a dû discuter beaucoup avec les camarades pour les faire comprendre que notre tâche n'était pas de rompre la famille, mais que notre tâche était de promouvoir et de faire gagner les droits de la femme pour la participation aux organisations politiques, culturelles, sociales et pour les droits à la participation dans la vie.
Quelles sont les relations de la messe justement avec toutes les organisations politico-militaires, quel est son statut?
Bon, nous nous revendiquons comme une organisation autonome. Autonome du FMLN, FDR et autonome des partis et des fronts de masse. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, disons, les secteurs féminins d'un parti, nous ne sommes pas les secteurs féminins d'un front de masse.
Mmh. Et mais vous avez des sympathies.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand Ames est né, en 1978, quand Ames commence son travail, on s'identifiait, disons, avec un projet politique et avec un projet global, politique de changement de la société. Et bien sûr, c'est dans cet aspect qu'on est inséré dans tout un projet, c'est-à-dire dans la reconnaissance, par exemple, d'un projet populaire pour l'instauration d'un gouvernement révolutionnaire et populaire. C'est-à-dire un gouvernement qui s'identifie et qui a pour axe, comme on dit, pour, qui est conduite par l'Alliance ouvrière-paysanne. Bon, c'est avec ce projet qu'on s'est identifié. Bon, mais s'identifier et suivre, disons, cette ligne politique, ne ça veut dire qu'on est une branche féminine de ces partis ou du front de masse qui s'identifie avec ces partis. Nous constituons en soi un mouvement de masse. C'est-à-dire que nous sommes un mouvement de masse parce que nous avons représenté à l'intérieur de AMES à toutes les couches de la société salvadorienne. Nous avons des paysans, des ouvriers, des habitants de bidonvilles, des étudiants, des secondaires universitaires, des intellectuels, des professionnels. Nous sommes représentés, mais il faut dire aussi que la majorité de notre militance est des femmes pauvres. C'est-à-dire que la grande majorité de la base d'AMES est pauvre, mais tous les autres, disons, femmes qui se sont incorporées, qui viennent n'importe de quelle classe, s'identifient avec les revendications des majorités des femmes qui sont pauvres. Bon, alors l'autonomie, nous la comprenons, disons, du point de vue politique. C'est une conception politique, l'autonomie. Alors, nous revendiquons cette autonomie. C'est-à-dire, c'est le droit qui ont les organisations de masse à gérer leur propre vie. C'est-à-dire...
Et ça, c'est une conception qui est admise en ce moment au Salvador par les dirigeants des différents fronts et tout ça.
Écoute,
ça se passe?
Ce qu'on peut dire de cette question, c'est que les organisations de masse ont gagné ces droits. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter et on ne peut pas nier, on ne peut pas rien dire. C'est-à-dire, on ne peut pas dire les FMLN peut nier. Parce que les organisations de masse avec leur praxis ont gagné cette autonomie. Alors, c'est eux qui vont décider par rapport à cette autonomie. Ce n'est pas, disons, la suprastructure en soi. Parce que les organisations de masse au Salvador ont une histoire déjà assez longue. Elles sont nées, les organisations de masse, avant qu'ils naissent les structures unitaires, avant qu'ils naissent même les avant-gardes. Elles existaient déjà là. Bon, la seule chose que les organisations de masse ont fait, c'est se situer dans un projet global, politique, lancé par une organisation politico-militaire qui est née en 1970. Et c'est avec ce projet politico-militaire que la majorité des organisations de masse et les plus importantes du Salvador se sont identifiées. Mais ça ne veut dire pas que cette organisation allait manipuler ou définir, n'est-ce pas, l'affaire d'organisation de masse. Cette organisation donne une conduction idéologique, s'identifie avec les revendications immédiates des masses, et c'est pour ça que les masses s'identifient avec cette organisation. Bon, la situation est comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les FMLN peut, on ne peut pas donner ou nier les organisations de masse ont gagné cette autonomie.
Et
on défend cette autonomie.
Il n'y a pas que la messe qui revendique son
autonomie. Non. C'est la Fédération des travailleurs de la campagne, c'est l'Association nationale d'éducateurs salvadoriens, c'est la Union des habitants de Bidonville, c'est le mouvement étudiantil de secondaire, c'est le mouvement universitaire, c'est-à-dire c'est le mouvement dans son ensemble qui revendique cette autonomie. Ce n'est pas une question de messe. Parce que pour nous, ça c'est une conception politique du mouvement dans son ensemble. Bon, peut-être qu'existent des organisations qui n'ont pas cette même conception. Mais nous considérons que la guerre est amenée par le peuple. Et dans la mesure que la guerre est amenée par le peuple, c'est le peuple lui-même qui va définir cette situation. Nous le voyons comme ça, c'est-à-dire Ames le voit comme ça. Peut-être que si vous enregistrez ou si vous interviewez un dirigeant du FMLN, va dire peut-être une autre chose, moi je ne sais rien.
Parce qu'il existe, pendant qu'on y est, il existe une autre organisation de femmes au Salvador, non, qui est composée plutôt justement de représentantes de différentes organisations.
Oui, exactement. C'est-à-dire que l'année dernière, le FMLN a organisé dans son antérieur un groupe de femmes. Bon, ce groupe de femmes s'appelle Comité Unitaire des Femmes Salvadoriennes et ce sont des femmes qui venaient en représentant leur organisation.
Bon. Parce qu'à la messe, chaque femme représente qu'elle-même.
Elle-même, ouais. C'est-à-dire que là, on ne questionne pas d'où est-ce qu'elle vient. On ne les demande pas. Si elle vient des milices, si elle vient de l'armée populaire, si elle vient de la guérilla, si elle vient du syndicat, si elle vient du foyer familial, si elle vient de... D'où est-ce qu'elle vient? On ne le demande pas. Pourquoi? Parce que nous nous incorporons en tant que femmes, pas en représentant à notre organisation. Parce que de cette façon, c'est là où on peut dévirtuer justement la revendication propre à une organisation de masse. C'est-à-dire, si on s'incorpore en tant que parti, alors on va vouloir faire valoir la question de parti. Mais à mes en tant qu'organisation de masse, a ses propres revendications de la perspective de la femme. Peut-être que ce n'est pas ça la perspective, je ne sais pas, de l'autre organisation. Alors, chaque organisation a ses propres revendications. Les paysans, revendications paysans. Les enseignants, revendications d'enseignants. Et nous, nos propres revendications aussi. La femme peut avoir double militance. Elle peut en même temps militer au syndicat de l'enseignement, où elle revendique toutes les choses structurelles, quoi, les salaires, le travail, etc. Elle peut s'incorporer à Ames et revendiquer à côté de toutes les femmes la situation, sa propre situation. Discuter la problématique des femmes. Bon, c'est comme ça, par exemple, que nous revendiquons autonomes, nous sommes très insérés dans les racines même du processus révolutionnaire, parce que chacune de nous peut avoir une double militance, on ne peut pas l'avoir. Mais on est à l'intérieur du processus même, parce que nous sommes, en train de travailler dans tous les niveaux de la guerre. Nous participons à l'alphabétisation, à la santé, à la réforme agraire, dans toutes les affaires, dans toutes les exigences de la guerre, dans les fronts de guerre. Bon, nous travaillons à côté des organisations de masse dans les villes, à côté des comités de quartier dans les villes. Et nous travaillons aussi à côté des réfugiés à l'extérieur du Salvador. Bon, et nous faisons tout un travail de supération politique des femmes, en même temps de technification des femmes, parce que nous travaillons avec des projets concrets dans les zones libérées, par exemple. On donne des instruments pour après aux femmes. C'est-à-dire, nous ne faisons pas un travail théorique ou un travail seulement révolutionnaire et d'exigence de la guerre. Nous donnons aussi aux femmes un instrument qui puisse l'assurer le lendemain la continuation de cette participation. Bon, c'est comme ça qu'on conçoit l'autonomie. C'est-à-dire, autonomie ne ça veut dire pas être dehors du processus révolutionnaire. Nous aidons à consolider ce processus révolutionnaire parce que nous sommes conscients que sans révolution, nous ne pourrons jamais cristalliser nos propres revendications. Bon, voilà, c'est-à-dire que pour nous, c'est dans l'immédiat, il faut passer d'abord par la révolution. C'est pour ça que nos propres projets d'émancipation féminine a dû naître, incorporer dans un projet global, politico-militaire, pour arriver à la prise du pouvoir, pouvoir transformer la société. Mais nous pensons que la tâche à nous, en tant que femmes, doit être avant la révolution, pendant la révolution et post-révolutionnaire. Voilà comment est-ce que nous nous insérons dans le processus révolutionnaire, dans le processus de libération de tous les peuples salvadoriens. Nous sommes autonomes, mais bien enracinés à travers toute notre militance dans ce mouvement de libération nationale.
J'ai entendu parler de quelques actions qui ont été faites par des femmes. Des actions assez spectaculaires, non?
Oui, et c'est vrai. Et malheureusement, c'était des actions qui n'ont pas eu de répercussions parce que les masses médias, c'est-à-dire même les masses médias du FMLN, ne donnent pas d'importance. Disons, les masses médias, les moyens d'information plutôt du FMLN donnent toujours la priorité aux nouvelles preuves de la guerre, les avances, les embuscades, les affrontements militaires et la question des femmes toujours secondaire. Alors, ça c'est très malheureux qu'on n'a pas eu de connaissances dans le moment où ça a été passé. Et oui, il y a eu des actions spectaculaires. La première, c'était une action des milices, des forces armées populaires de libération dans l'Orient de la République au Sultan.